Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Benjamin Haddad. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chercheur en relations internationales de formation, mais vous êtes aussi député Renaissance de Paris. Vous rentrez tout juste d'un déplacement à Washington. Vous avez rencontré des dizaines de membres du Congrès américain, notamment républicains, pour essayer d'aider à débloquer l'aide à l'Ukraine qui, comme on le sait, et on va y revenir, est actuellement bloquée au Sénat. Après l'Iowa, la semaine dernière, Donald Trump remporte la primaire dans l'État du New Hampshire devant son ancienne ambassadrice à l'ONU qui s'appelle Nikki Haley, alors qu'on a appris que Ron DeSantis avait jeté l'éponge il y a quelques heures. Bon, c'est plié, il sera le candidat des Républicains ou est-ce qu'il reste encore un peu de suspense?
Il semblerait, je crois qu'il est le patron presque incontesté du Parti Républicain, toujours sur le même message, anti-immigration, protectionniste, nationaliste, remettant en cause le rôle international des États-Unis, en particulier en Europe. Au fond, en 2016-2020, on a voulu se faire croire que c'était une parenthèse de l'histoire, que ça allait durer 4 ans et qu'après, on allait revenir à la normale. Là, je crois maintenant qu'il faut qu'on en tire les conséquences. On ne peut pas jouer la sécurité de l'Europe à pile ou face tous les 4 ans.
Et ça, on va y revenir sur la sécurité de l'Europe. Mais vous rentrez des États-Unis, vous avez rencontré des républicains. Sans état d'âme, malgré le Capitole, malgré toutes les affaires, ils sont prêts à caler leur pas derrière ceux de Donald Trump. Sans hésitation, sans état d'âme.
En fait, ils voient surtout que leur base, la base de la primaire du Parti républicain, les militants, sont totalement loyaux à Donald Trump. Ils continuent à le voir comme leur champion. Et ça, ça a des conséquences dès aujourd'hui. Parce qu'avant même de se poser la question de l'élection en novembre, on l'a vu au Congrès, aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël sont bloquées. Non pas en fait d'ailleurs à cause des questions de politique étrangère, mais parce qu'elles sont liées à la question de l'immigration sur laquelle il y a une vraie division entre les démocrates et les républicains. Ça rend les institutions politiques américaines dysfonctionnelles dès aujourd'hui avec les conséquences que ça a pour nous.
Donc aucun suspense, c'était la question que je vous posais. Aujourd'hui, il sera le prochain candidat des républicains pour la présidentielle aux États-Unis, malgré son actualité judiciaire. C'est une angoisse pour ses supporters ou pas du tout?
Non, je crois au contraire que ça le renforce chez ses supporters. Ça continue à renforcer l'idée d'un candidat anti-élite contre qui les institutions politiques, médiatiques, judiciaires essaient de se liguer.
Mais il a l'âge qu'il a. Écoutez ce que dit la dernière adversaire qui lui reste, Nikki Haley, qui a tapé, j'allais dire, en dessous de la ceinture, en tout cas là où ça fait mal. Il a 78 ans, Donald Trump, et elle trouve que c'est aussi un homme qui vieillit. On l'écoute.
And he claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. He says that I'm the one that kept security from the Capitol on January 6th. I was nowhere near the Capitol on January 6th. But Margaret, you don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental stability is going to continue to decline. That's just human nature.
Il y avait l'argument judiciaire, il y a désormais l'argument de l'âge d'un homme vieillissant qui parfois aussi fait des gaffes comme celui qu'il appelle Sleepy Joe. Je parle bien sûr du président américain Joe Biden.
Oui, bien sûr. Maintenant, ça devient un duel en fait entre Nikki Haley et Donald Trump. Donc ça va se durcir sur le plan personnel. Il y a aussi des attaques contre Nikki Haley de la part du camp Trump. Ce qui est assez intéressant sur Nikki Haley, c'est qu'en fait, elle est au fond presque la dernière représentante du parti républicain d'avant, c'est-à-dire assez internationaliste, faucon sur les questions internationales. Elle a beaucoup parlé du soutien à l'Ukraine dans sa campagne et c'est l'un des angle d'attaque qu'utilise Donald Trump contre elle.
Le match retour, ils en veulent les Américains ou pas? Le match retour Biden-Trump?
Non, je crois qu'il y a une large majorité d'Américains qui ne souhaitent pas ce match retour, mais il semblerait en effet qu'on s'achemine vers un Biden-Trump 2.
Alors, vous en parliez rapidement. Effectivement, le 6 décembre dernier, le Sénat américain a bloqué une aide de 106 milliards de dollars, comprenant des fonds pour l'Ukraine et pour Israël. Vous rentrez, je le disais, d'un déplacement à Washington. Vous avez rencontré une dizaine de membres du Congrès américain, j'allais dire surtout républicains. Qu'est-ce que vous avez compris des raisons qui amènent les États-Unis à bloquer cette partie de l'enveloppe liée à l'aide à l'Ukraine, notamment?
J'étais avec une coalition de députés de toute l'Europe, en fait, qui viennent en soutien à l'Ukraine. On s'est rendu plusieurs fois à Kiev avec ses parlementaires. Et là, on était à Washington pour rencontrer nos homologues et leur dire que la guerre n'est pas terminée, qu'il faut continuer à rester unis et soudés dans le soutien à l'Ukraine. Et on voit aujourd'hui, en fait, que cette aide, elle est bloquée par un sujet qui est lié, qui est l'immigration. Donc, en fait, c'est un package qui comprend l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël et la question de la sécurité de la frontière sud, l'immigration. Et en fait, aujourd'hui, il y a une vraie division entre démocrates et républicains sur ces questions identitaires liées à l'immigration.
Quel est le rapport avec l'Ukraine?
Alors, parce qu'en fait,
il n'y en a aucun.
Il n'y en a aucun. C'est juste la politique, politicaille, on va dire, de Washington qui a lié ces deux sujets. Et c'est là qu'on voit en fait que ces clivages partisans américains ont un impact dès aujourd'hui, en fait. Il ne faut même pas attendre novembre sur la sécurité de l'Europe avec les conséquences.
On va en parler de l'Europe. Je vous assure qu'on va en parler des conséquences pour l'Europe et pour la sécurité européenne. Mais d'abord, sur le blocage de cette aide, on a quand même un président encore des États-Unis qui s'appelle Joe Biden qui a promis de continuer à soutenir les Ukrainiens. Ça veut dire qu'il est plus en capacité de tenir cette promesse.
On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais en effet, je crois que arrêter d'aider l'Ukraine, ce serait une catastrophe stratégique pour nous, Européens, en premier lieu. Ça aurait des conséquences sécuritaires, avec le message que ça enverrait à d'autres pays comme la Chine, avec les conséquences que ça pourrait avoir sur la sécurité de nos partenaires de l'Union européenne, des pays baltes, de la Pologne demain, qui pourraient se retrouver menacés par la Russie, mais aussi sur la sécurité énergétique ou alimentaire du monde. On pourrait se retrouver avec une Russie qui contrôle 30% des exportations.
Et ça, ils l'entendent ou pas, quand vous dites ça?
Eh bien, ils l'entendent, même si ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, l'argument qui porte le plus, et on voit là les priorités partagées par les démocrates et les républicains, c'est celui de la Chine. Et au fond, c'est le message de dissuasion qui pourrait être envoyé à la Chine derrière sur un conflit, par exemple, demain à Taïwan. Donc, une fois de plus, là, et ça, c'est un sujet bipartisan aux États-Unis entre démocrates et républicains, la priorité absolue, ce sera la rivalité avec la Chine.
Mais il faudrait peut-être qu'on fasse le ménage chez nous, quand même, parce qu'en Europe, la Hongrie a posé son veto pour une aide européenne de 50 milliards d'euros. Olaf Scholz, ces derniers jours, a regretté que la majorité des pays européens ne contribuent pas suffisamment à l'aide militaire à l'Ukraine. Il faudrait d'abord qu'on arrive à se mettre d'accord. Avant de faire la leçon aux Américains.
Alors, ça fait deux ans que l'Union européenne est unie, soudée et soutient l'Ukraine avec de l'aide économique, de l'aide militaire. Si on met d'ailleurs toute l'aide européenne, c'est plus que les États-Unis.
Pas suffisamment, selon Olaf Scholz.
Mais il faut continuer. Mais encore une fois, d'ailleurs, ce n'est pas un concours entre pays européens. C'est bien que l'Allemagne prenne ses responsabilités. Ça fait des années qu'on demandait à nos partenaires allemands de hausser leurs ambitions sur les questions de défense. La France joue son rôle avec des livraisons d'armes. Vous le savez, que ce soit... on est le premier pays à avoir livré des chars d'assaut, des missiles de longue portée avec nos partenaires britanniques, les Scalp, les fameux canons César qui permettent aussi des victoires symboliques importantes. Mais il faut continuer. En réalité, je crois que la leçon qu'il faut tirer à la fois de ce qui vient des États-Unis et de la guerre sur notre continent, c'est l'urgence du réarmement européen. Réarmement matériel, c'est-à-dire hausser nos ambitions, nous donner les moyens de défendre notre sécurité.
Ça fait deux ans qu'on dit ça.
Mais on le fait. On a eu des vrais succès ces dernières années. Je veux dire, depuis le discours de la Sorbonne du président de la République en 2017, on a eu le plan de relance Covid qui nous a permis pour la première fois d'emprunter au niveau européen, d'investir dans la transition environnementale et numérique, d'aider l'aide à l'Ukraine sous présidence française, où juste après le 24 février, on a pris des mesures historiques sur l'aide militaire avec la Facilité européenne de paix ou les sanctions, la protection de nos frontières avec le pacte asile-migration. Mais en effet, je crois que cette urgence du réarmement, c'est un rôle historique que la France doit porter.
La France, dites-vous, pas que la France toute seule.
La France avec ses partenaires, mais je crois que la France a un rôle de leadership à jouer. Depuis des années, au fond, on dit que peut-être demain, on pourra plus compter sur les Américains, qu'on a des crises à nos frontières sud, où on est impliqué au Sahel, le Moyen-Orient, naturellement, ça demande d'augmenter nos moyens de défense. On le fait au niveau national.
Là, le leadership, on a l'air, en vous écoutant, vous voulez vous projeter. Il faudrait qu'elle prenne le leadership.
On le fait déjà depuis des années. Il y a eu, je vous parlais de ces avancées comme le plan de relance Covid ou comme sur les questions migratoires. Là, je crois qu'il y a des projets extrêmement ambitieux. Le fait d'avoir, ce qu'a proposé Thierry Breton, un grand emprunt européen de 100 milliards, pour pouvoir investir dans une industrie de défense autonome. Au fond, il y a aussi un enjeu de réarmement intellectuel. De comprendre qu'on est dans un monde de rapports de force, que les liens commerciaux traditionnels, énergétiques, technologiques sont aujourd'hui utilisés comme des leviers d'influence et de conflit par des pays comme la Chine, la Russie ou peut-être demain les États-Unis sous Donald Trump, et à nous d'en tirer les conclusions.
Ce que j'entends, c'est que vous êtes entré en campagne.
Ah oui, mais ça va être un enjeu majeur.
Ça va être un enjeu. Ce qu'il se passe plus sérieusement en Ukraine va être un enjeu majeur de ces élections européennes.
Mais bien sûr. Alors, 2024, ça va être une année existentielle pour l'Europe. On a une guerre sur notre continent. On a peut-être demain les États-Unis qui, à nouveau, nous tournent le dos et nous font la guerre économique. On a la pression économique de la Chine, les crises à nos frontières. Est-ce qu'on veut une Europe souveraine qui est capable de défendre ses intérêts et d'assumer sa puissance, ou une Europe divisée, affaiblie, repliée sur elle-même. Ça va être un enjeu majeur de l'élection du 9 juin.
Mais Benjamin Haddad, vous entendez l'actualité et on va en parler dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Quand on parle de l'Ukraine en ce moment, on entend aussi des agriculteurs qui sont très en colère contre ce qui est en train de se passer au niveau européen sur l'Ukraine, avec une importation de produits ukrainiens moins chers que les pays, que ceux des pays européens. On sent qu'il y a une colère qui est en train de monter aussi contre ce qui se passe en Ukraine à ce titre-là. Vous l'entendez, ça?
Alors, vous avez bien vu que la colère et le désarroi de nos agriculteurs, elle est entendue par le gouvernement. Nos agriculteurs sont les garants notre souveraineté alimentaire, sont les garants, le poumon économique.
Mais sur la partie ukrainienne et sur cette critique-là.
Mais sur l'Ukraine, je voudrais quand même dire quelque chose, parce qu'en effet, il y a une désinformation cynique de la part du Rassemblement national qui nous explique que l'Ukraine demain va rentrer dans l'Union européenne et va mener une concurrence déloyale à nos agriculteurs. L'Ukraine est candidate, je pense qu'elle a vocation à rentrer dans l'Union européenne, mais je voudrais quand même rappeler que ce processus va être très long, mettre 10 ou 15 ans, qu'il va demander des réformes majeures à l'Ukraine, qui va devoir s'aligner sur nos normes, sur nos standards, et donc pas faire de concurrence déloyale, et que la France dispose d'un droit de veto à toutes les étapes de ce processus. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a jamais eu la main qui tremble sur ces sujets-là. C'est lui qui avait mis un veto en 2019 sur les pays des Balkans, parce que le processus d'adhésion à l'époque ne fonctionnait pas, et nous avons eu gain de cause. Donc on sera extrêmement vigilants, tout en accompagnant les Ukrainiens dans ce processus.
Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été mon invité. On va poursuivre, donc sur, vous l'avez compris, sur la colère des agriculteurs, avec un mouvement qui s'étend, avec 85 départements qui sont d'ores et déjà concernés par ce mouvement de colère. À tout de suite.
Retrouvez C'est dans l'air avec le yaourt gourmand Ananas Passion Maminova. Maminova, il n'y a que toi qui me fais ça.
Retrouvez C'est dans l'air avec Corum l'épargne à vos côtés pour donner vie à vos projets. Corum l'épargne.
Une santé éclatante qui le fait bondir de joie. Avec Hills, préparez une gamelle saine et savoureuse et offrez à votre meilleur ami les meilleurs nutriments pour sa meilleure vie. Et tout ça grâce à la science. Hills, la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France. Disponible en clinique vétérinaire, animalerie et en ligne.
C'est la finale du programme à froid.
Est-ce que Clarisse va nous sortir un blanc impeccable?
Moi, j'ai parié que non.
T'es sérieux?
Dans les grands rendez-vous.
Ça serait vraiment le bon moment.
Clarisse, éveillez-nous. En passe de réaliser l'exploit.
Le blanc à froid, c'est risqué, mais elle peut le faire.
Ça y est, c'est bientôt le moment de vérité.
Ça sent bon pour la française, c'est toujours jeune pour son adversaire.
Allez,
Le résultat de votre lessive ne devrait pas être un jeu de hasard. Alors comme Clarisse, choisissez Ariel Pods. D'abord une pod, puis le linge, et même à basse température, le blanc est impeccable. Ariel Pods, des lessives toujours gagnantes, même à froid, et toujours tenir hors de portée des enfants.
Les trois raisons pour lesquelles vous devez tester Comme J'aime pour perdre du poids.
La première, ça marche vraiment. En seulement 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. Eh oui, 15 kilos.
La deuxième, c'est super pratique. Je reçois tous mes plats dans un colis. Je n'ai pas à faire les courses, ni cuisiner, ni compter les calories.
La troisième, c'est vraiment trop bon. Il y a plus de 50 plats. J'aurais jamais cru pouvoir manger tout ça et perdre du poids. En plus, c'est seulement 3,92€ par repas. Alors, tu te motives? Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr.
Dites-le à tout le monde. Stana, ça change la vie. Appelez Stana 0800 801 064.
La Grande Librairie s'installe à Marseille à l'occasion des Nuits de la Lecture et des 10 ans du MUCEM, une émission en public tournée vers l'autre et vers l'ailleurs. Avec nous, le prix Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, mais aussi Laurent Godet, Nina Bouraoui, Majid Cherfi, Belinda Cannon et la poétesse Laura Vasquez. Parce que la littérature est un lieu de rencontre, de partage, de commun et qu'on en a besoin, rendez-vous à Marseille dans la Grande Librairie.
La Grande Librairie, ce soir à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv.
Lundi des
princesse mardi, des princesses mercredi, princesse Amandine.
Ferme, fondante, savoureuse, princesse Amandine, c'est trop bon.
Je m'appelle Vanessa, ça fait 20 ans que je suis mariée à mon mari David.
Par rapport au bio, t'étais comment toi au début? T'étais convaincue?
Non. Et j'ai découvert le bio en étant salariée chez Jardin Bioéthique. On connaît les produits, on connaît les agriculteurs. On peut être que convaincu du bienfait de ce que fait Jardin Bioéthique.
Jardin Bioéthique, de Léa Nature.
Quand son dentiste lui a demandé s'il avait une bonne mutuelle, Eric s'est un tantinet emporté.
Emporté, là, ils avaient vraiment fait, hein.
Alors qu'avec les furets.com, il aurait pu comparer et économiser en moyenne 285 euros par an.
Les furets.com?
Comparer, c'est gagné.
Vous avez des difficultés à faire vos lacets? Certains vêtements sont inconfortables à cause des frottements? Vous êtes facilement essoufflé? Si ces situations vous parlent, vous êtes peut-être en situation de surpoids, voire même peut-être en obésité. Vous soulager de vos kilos peut améliorer votre quotidien.
Aujourd'hui, je suis en excellente santé. Je ne suis plus essoufflée. Je dors très bien. Je ronfle plus. Je suis légère. La vie est belle.
Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr.
Salut.
Salut mon chéri, tu m'as pris du sirop?
Oui, pour la toux sèche, la toux grasse, la toux aiguë et la toux persistante.
Mais t'en as acheté combien?
Un seul, Grintus.
Grintus a une formule 100% naturelle et calme la toux de toute la famille. C'est un dispositif médical par avocat.
Le truc mou derrière, c'est mon frère. Ton yaourt à boire Eco Plus a beau ne coûter que 1,42€, il le kiffe grave. Pas vrai, gros? Vivement qu'il parle. Eco Plus de Leclerc.
Leclerc.
Retrouvez C'est dans l'air avec le yaourt gourmand Ananas Passion Maminova. Maminova, il n'y a que toi qui me fais ça.
Retrouvez C'est dans l'air avec Corum l'épargne à vos côtés pour donner vie à vos projets. Corum l'épargne.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Les sociétés d'autoroutes conseillent aux automobilistes de différer tout déplacement. Cette alerte lancée en fin d'après-midi en dit long sur l'ampleur prise par le mouvement de colère des agriculteurs. 85 départements sont déjà concernés, des cortèges de tracteurs qui s'installent sur les grands axes et projettent de débarquer à Paris et en Île-de-France. L'accident survenu hier sur un point de blocage dans l'Ariège a fait 2 morts, tuant une agricultrice et une fille et sa fille de 12 ans. Un choc qui n'a pas empêché un durcissement de la mobilisation. Le gouvernement tente d'organiser sa réponse, mais avance à pas compter avec une très grande prudence. La porte-parole du gouvernement estime même qu'il n'est pas question de venir empêcher les blocages, car ces manifestations, dit-elle, sont organisées dans un cadre légal. Alors pour l'instant, 82% des Français soutiennent l'action des agriculteurs. Vers une France bloquée, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Frédéric Danhé, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre dernier livre, Rencontre avec des écolos remarquables, publié chez Delachaux et Niestlé. C'est ça le Delachaux et
Niestlé, hein. Nestlé, oui.
Voilà, je préférais que vous le prononciez vous-même. Voilà, c'est ça. Audrey Guittard est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter spécialiste des faits de société à France Télévisions. Et Guillaume Daret, vous êtes grand reporter au service politique à France Télévisions. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Yves Tréhard, on en est à cette alerte que je viens de lancer, c'est-à-dire que les sociétés d'autoroute disent aux Français, surtout ne prenez pas votre voiture si vous n'êtes pas absolument obligé de le faire. Là, on est face à un mouvement qui dérape, mais qui prend une ampleur.
Ah non, il ne dérape pas, il va prendre une ampleur, évidemment, il va continuer à prendre une ampleur. Je pense que le monde agricole va faire pression sur le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a des revendications qui sont des revendications justifiées. Deuxièmement, parce que c'est un nouveau gouvernement. Donc un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe, vous vous dites, bon, bah, on va les mettre sous pression, ils vont être obligés de lâcher. Et effectivement, le gouvernement a déjà dit qu'il allait faire des annonces.
Ça, on va en parler, mais sur ce qui est en train de se passer dans le pays, je le disais, 85 départements.
Bah parce que les Français sont derrière les agriculteurs. Les agriculteurs ont bonne presse, ont toujours eu bonne presse d'ailleurs. Et puis les agriculteurs ont une deuxième chose, c'est qu'ils sont très organisés. Je voyais qu'on les compare aux gilets jaunes, c'est pas du tout les gilets jaunes. Les agriculteurs, ils ont des syndicats, ils ont des leaders, ils ont des revendications qui sont précises, donc ça n'a rien à voir avec un mouvement des gilets jaunes.
Guillaume Darès, sur le mouvement tel qu'il est en train de se transformer, on est passé des panneaux à l'envers à aujourd'hui des menaces entre guillemets de tracteurs qui vont déferler sur l'île de France et bloquer le pays. À quel stade en sommes-nous ?
Alors, c'est pris extrêmement au sérieux, à commencer par le chef de l'État, qui ce matin, dans le huis clos du Conseil des ministres, a dit à ses ministres, justement, dans le gouvernement, qu'il fallait regarder ça avec la plus grande vigilance et la plus grande prudence. Effectivement, ils ont en mémoire les précédents mouvements de mobilisation. Et là, on voit bien le calendrier qu'ils vont essayer de dérouler dans les heures à venir. En ce moment même, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, réunit tous les services qui relèvent de lui déconcentrés pour regarder aussi, vous savez, il y a des fois des pépins, c'est-à-dire une directive, une circulaire qui est prévue de sortir depuis 2-3 mois et qui vient ajouter encore à la lourdeur administrative. Donc ils essayent de regarder qu'il n'y ait surtout pas ce genre de choses-là. Et dès demain matin, à Matignon, Gabriel Attal va réunir Christophe Béchu, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances pour cadrer très vite des réponses qui sont attendues probablement vendredi.
On va, pardonnez-moi, revenir sur les réponses. Je voulais juste avancer lentement sur cette émission pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un mouvement qui est parti du sud-ouest d'abord. Aujourd'hui, quand vous regardez cette carte de France des blocages, est-ce qu'on est face à quelque chose, veut dire, qui échappe aux organisations syndicales ? Comment est-ce que vous appréciez le mouvement social ? C'est ça qu'on essaie de sonder aussi ce soir. Naturellement, la réponse du gouvernement et toutes les tracas, la question de la simplification, toutes les raisons de la colère. Mais quand on regarde cette carte, en 48 heures, le mouvement a changé de nature.
Pour l'instant, ça n'échappe pas encore aux organisations syndicales, c'est ce qu'elles estiment, elles, et ce qu'estime effectivement le gouvernement, qui dit que le test, on va le voir, ça sera ce week-end.
D'accord.
Voir si la mobilisation se poursuit au-delà de ce week-end, et que pour l'instant, ils ont le sentiment que la FNSEA, les jeunes agriculteurs, maîtrisent plutôt la mobilisation, qui est une mobilisation qui a été annoncée au début de la semaine, où déjà les agriculteurs avaient dit « on va faire des opérations tout au long de la semaine », et là, ils sont en train de dérouler le calendrier qui était prévu. Donc pour l'instant, ils tiennent la mobilisation. Mais vraiment, le test, ça va être, après les réponses, qu'est-ce qui se passe au-delà du week-end.
Audrey Goutard, la stratégie pour l'instant des agriculteurs, c'est des tracteurs sur les autoroutes.
Des tracteurs sur les autoroutes, avec effectivement des blocages de façon très disciplinée, comme vous le disiez très justement, on est loin des mouvements gilets jaunes. D'ailleurs, on a affaire, le profil même des agriculteurs qui manifestent aujourd'hui sont finalement plus des petits chefs de PME. Ils sont responsables, ce sont les patrons de leur propriété, les patrons de leur production. Donc, ils sont là pour être utile, parce que finalement, les bêtes attendent, les récoltes attendent, bref, le travail attend à la maison. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils sont là de façon organisée. Et puis, lorsque vous disiez tout à l'heure que l'Île-de-France risque d'être visée, pensez à Rungis. Le blocage de Rungis, ça serait une catastrophe. Donc, le point de non-retour, finalement, il est là. C'est à partir du moment où, effectivement, les grandes agglomérations sont encerclées et que la distribution des marchandises, etc., sont bloquées, qu'il y aura vraiment un problème pour le gouvernement.
Et la montée en pression se fait à ce stade-là.
Et vous voyez, la stratégie est très, très bien huilée, finalement, parce qu'on voit bien, vous l'avez très bien expliqué dans votre introduction, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une progression, ça part de l'Occitanie pour des raisons précises, et puis petit à petit, ça s'égrène un peu partout, et l'Île-de-France, le dernier rempart, si l'Île-de-France tombe, j'allais dire, eh bien, effectivement, là, on est dans une énorme crise.
Frédéric Danhé, sur le mouvement social, la façon dont les choses se sont installées, ça a pris des mois, c'était à bas bruit, et d'un coup, le sentiment que une allumette a fait partir ce mouvement de manière assez spectaculaire.
Vous l'avez vu, c'est parti d'Occitanie, parce que c'est en Occitanie où les agriculteurs ont été le plus touchés par la sécheresse, où la remise en cause du modèle agricole issu des années 60 est la plus forte, où beaucoup plus qu'ailleurs, les agriculteurs se posent crûment la question qui est en fait derrière tout ce mouvement-là, la question que posent les paysans, c'est est-ce que demain, on aura encore besoin d'agriculteurs ? Après tout, on s'est séparé de l'industrie de façon un peu idéologique à partir des années 90. Et la grande inquiétude du monde agricole, c'est est-ce que demain, on sera encore là ? Est-ce qu'on a encore besoin de nous ? Est-ce que la société a encore envie de nous ? Quand on voit, j'étais l'autre jour en région Bourgogne-Franche-Comté, et un bureau d'études a dit tout simplement, vous voyez, chez vous, vous êtes une région d'élevage, en 2050, il n'y en aura plus, c'est comme ça. Et les éleveurs regardant en disant... Ah bah oui, parce que la démographie, parce que ceci, cela. Enfin, on est en train de se mettre dans la tête que demain, et aussi pour des questions faussement écologiques, on n'aurait plus d'éleveurs. Et donc, on irait acheter, par exemple, du poulet, on irait acheter de la viande directement en Pologne et en Ukraine, qui n'ont pas vraiment nos critères environnementaux.
Sur la méthode, bloquer le pays, c'est un moyen pour obtenir rapidement des décisions. Une fois que la mèche est allumée, les agriculteurs veulent aller jusqu'au bout. Voilà ce que dit Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
Oui, alors je crois qu'il y a une approche très particulière du gouvernement. Parce que le gouvernement aurait pu dire, bon, on va faire une réponse globale. Et ils se disent, si on fait une réponse globale, on risque de taper à côté de ce que les agriculteurs attendent. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ils ne demandent pas tous la même chose. Ils ne sont pas tous sur les mêmes revendications. Exactement. Et ça répond à votre question sur les régions. Toutes les régions ne sont pas sur les mêmes motifs de colère, je dirais. Et donc, ce que la porte-parole du gouvernement a dit, et ce que d'ailleurs Gabriel Attal laisse entendre, il dit « je veux faire le tour des questions pour essayer d'avoir une réponse qui satisfasse à peu près l'ensemble des professions ». Parce que c'est vrai que si on prend les céréaliers, ils ne sont pas du tout dans les mêmes motifs de colère ou de revendication que les producteurs de fruits et légumes ou que les éleveurs.
En tout cas, ce sont des cortèges de tracteurs qui déferlent dans toute la France. Bordeaux, Grenoble, Bayonne, Orléans, d'ici à vendredi, 85 départements seront concernés. Les départs au port de Calais sont d'ores et déjà à l'arrêt et les syndicats agricoles préviennent déjà que le blocage va se rapprocher, on le disait à l'instant, de l'Île-de-France et de Paris. Un mouvement qui prend de l'ampleur, un gouvernement sommé d'apporter des réponses concrètes à cette colère paysanne. Romain Besnénou, Léo Seux et Dominique Lemarchand.
S'il vous plaît, on va repartir. Vu qu'on nous écoute toujours pas, eh bien, on va continuer.
Sur l'autoroute d'Agen, les bonnets jaunes voient rouge.
Appelez vos voisins, des amis, il faut du monde. Cet après-midi, il faut qu'on soit un paquet de monde, un paquet de tracteurs. L'État se fout de nous.
Direction la préfecture du Lot-et-Garonne, où, en plus de leur colère, les agriculteurs déversent des kilos de fumier et de déchets.
À un moment donné, il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre, voilà, on est prêt à tout aujourd'hui, quoi. On est venu pendant des mois et des mois rencontrer le préfet pour échanger, pour partager. On a envoyé des mails, on a fait tout ce qui était possible, inimaginable. Rien ne se passe, rien ne bouge.
À Agen, mais aussi à Beauvais, Bourges, Avignon, ou ici en Indre-et-Loire, les agriculteurs multiplient les blocages et les actions coup de poing. Tout le territoire est désormais concerné et la FNSEA promet d'étendre encore ses opérations. Un mouvement endeuillé par la mort hier d'une agricultrice et de sa fille, percutée par un chauffard alors qu'elles étaient sur un barrage routier.
Elle se battait pour notre métier et pour qu'elle était fière de nourrir la France.
Un drame qui ajoute à la colère des agriculteurs et accentue la pression sur le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place à Pamiers hier soir.
Nous avons souhaité venir ici d'abord pour témoigner de l'émotion de la nation, l'émotion du gouvernement, du président et du Premier ministre face au drame qui est arrivé ce matin. On est à l'œuvre avec le Premier ministre, avec le Président de la République, pour apporter des réponses dont j'entends qu'elles soient concrètes et rapides.
Attention, dossier explosif. Le gouvernement, qui craint par-dessus tout l'étincelle, promet des annonces dans les jours à venir, peut-être dès vendredi. Dans un hémicycle surchauffé par l'opposition, pour Gabriel Attal, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile, vraiment. À chaque problème, vous répondez par une norme. À chaque difficulté, vous répondez plutôt en général en pointant du doigt nos agriculteurs.
Normes, taxes, lourdeurs administratives, une quarantaine de revendications seront mises sur la table rapidement par la FNSEA pour sortir de la crise. À Agen, les agriculteurs ont également dans leur viseur la grande distribution. Moins de marge pour les industriels, de meilleurs prix pour les paysans.
Regardez, un kilo de pommes, là. Sorti du champ, 35 centimes. Vous allez à Leclerc, 20 km plus loin, 3 euros. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comment voulez-vous que ça marche? Qu'est-ce qu'on branle au gouvernement? Le gouvernement, il devrait dire halte, les gars, stop. et personne ne comprend rien.
Déterminés, ces jeunes ouvriers agricoles iront jusqu'au bout.
Nous, on ne nous écoute pas. Le président, il ne vient pas. Même pas le Premier ministre. On voudrait avoir quelqu'un. Et s'ils ne veulent pas venir, eh bien, on va aller les chercher.
On va y monter. Voilà. On montera à Paris, on montera à Bruxelles, où il faut, mais au bout d'un moment, il faudra faire bouger les choses.
Les campagnes grondent dans toute l'Europe. En Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Espagne, faisant craindre aux différents gouvernements un embrasement général.
Alors, on va revenir sur l'éventuelle réponse du gouvernement et les pistes qui sont déjà sur la table, mais d'abord sur ce mouvement social et qui l'organise. La FNSEA est-elle un État dans l'État, nous demande Phil dans l'Essonne.
Ah bon, on n'en est pas loin. C'est la FNSEA qui fait à peu près ce qu'elle veut en matière d'agriculture. C'est la FNSEA qui dicte le nom du ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll était, ou Michel Barnier était des cas à part. Et c'était des vrais bons ministres de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est la FNSEA.
Marc Fesneau n'est pas un bon ministre de l'Agriculture ?
Il a peur de ce qui arrive aujourd'hui. Alors, il a des bonnes idées, mais de toute façon, ces bonnes idées, elles passent par le filtre de la FNSEA. Ce qu'il faudrait surtout éviter aujourd'hui, c'est que ce qui se passe là se résume au sempiternel dialogue au ministère de l'Agriculture entre le ministre de l'Agriculture ou Matignon et la FNSEA.
Ce qui se passe.
Oui, mais ça va tout figer. Comme d'habitude, on va donner des sous, ça figera pour un moment le monde agricole dans ses revendications, et puis ça figera toute évolution. Une des raisons pour lesquelles les agriculteurs râlent aujourd'hui à juste titre sur les normes, c'est que les normes environnementales, elles n'arrivent pas comme ça. Les normes environnementales, les directives européennes, elles sont annoncées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais avec la FNSEA, le poids de la FNSEA, eh ben, les agriculteurs pensent que non, la FNSEA est là, on a manifesté, on a obtenu des choses, donc il ne va rien se passer. On met les choses sous le tapis. C'est de la pensée magique. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au pied du mur. En fait, la meilleure chose qui puisse arriver aux agriculteurs, lesquels d'ailleurs, en privé, moi j'en connais plus, un monde que je pense bien connaître, j'en connais pas qui soutiennent la FNSEA. Ils le soutiennent uniquement parce que c'est le pied qui va permettre de rester en permanence dans la porte du ministre ou du Premier ministre. C'est tout, c'est un rapport de force. Il n'y a pas la FNSEA, compte tenu du poids la Confédération paysanne qui est quasi nulle en termes statistiques.
Et la coordination rurale qu'on a vue avec les bonnets jaunes.
C'est la branche jeune et un peu radicale de la FNSEA. En fait, il faudrait que ce mouvement s'émancipe de la FNSEA. Et d'ailleurs, c'est un peu, quand on écoute les interviews des gens qui ont lancé le mouvement en Occitanie, c'était pas la FNSEA qui les a lancés. La FNSEA essaye de rattraper, d'encadrer le mouvement, très bien, mais il faudrait surtout pas que la FNSEA, encore une fois, fiche, sinon le monde agricole, on prend encore pour 5 ans, où on va leur faire croire que l'Europe, c'est des méchants, les écolos, c'est des méchants, les consommateurs sont des méchants. Juste une incise, je sais pas si vous avez vu, mais les agriculteurs s'en prennent toujours eux-mêmes, aux préfectures. Mais c'est pas la préfecture.
Et pourquoi ? C'est pas elle qui décide de faire passer une pomme de 35 centimes
C'est la grande distribution.
À 3 euros.
C'est la grande distribution et c'est certaines coopératives agricoles. Mais c'est plus facile, enfin, il faut moins de courage pour aller taper sur un hypermarché ou de coopérative agricole que jouer la comédie humaine traditionnelle. On balance du lisier sur la préfecture et là, ils risquent de perdre leur...
Vous dites que c'est la comédie habituelle. Très intéressant, la réaction de la porte-parole du gouvernement qui dit, je le citais tout à l'heure, il n'est pas question de venir empêcher les blocages. C'est quand même très étonnant. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Ça montre l'extrême prudence et le fait quand même qu'effectivement le monde agricole est traité avec...
Déférence.
Voilà, on a vu un gouvernement parfois plus actif pour faire évacuer des blocages. On voit que vraiment... Mais c'est ça, chacun joue un peu son rôle. C'est-à-dire, on le disait au début de la semaine, la FNSEA a dit on va faire une semaine de mobilisation. Oui. On a le sentiment que le gouvernement dit faites votre semaine de mobilisation. On n'y touche pas. Nous, on fait nos propositions à la fin de la semaine. Et puis, on verra à ce moment-là comment... On est un peu dans une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. C'est clairement ça.
Donc, si c'est une vraie pièce de théâtre, personne n'est inquiet au sommet de l'État. Si chacun joue son rôle.
Pour l'instant, c'est pour ça que, comme on le disait, la FNSEA espère que le gouvernement répondra aux attentes. Ouais. La FNSEA doit faire remonter ce soir une quarantaine de propositions à Matignon. Matignon et le ministre de l'Agriculture vont tenter d'y répondre. Et effectivement, ils espèrent qu'une fois supplémentaire, ça va se poursuivre comme ça.
Yves Tréard.
Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que... L'électorat agricole, c'est un électorat qui vote pour la majorité présidentielle et pour les Républicains. Donc c'est pas, c'est aussi leur clientèle et leur base électorale qui sont en train de traiter le gouvernement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce gouvernement, je vous rappelle que le Premier ministre n'a pas encore fait son discours de politique générale.
Oui.
Donc il ne peut pas se permettre... d'aller devant l'Assemblée nationale avec derrière lui une crise qu'il ne maîtrise pas. parce que là, ça sera très très difficile pour lui. Deuxième chose, il sait très bien que dans un mois, il y a le salon de l'agriculture. Et donc, évidemment que les agriculteurs, ils savent faire de la politique. Donc, ils vont pousser leur avantage, ils vont aller jusqu'au salon de l'agriculture, dans la grogne. Ça, c'est la troisième chose. Troisième chose qu'il faut dire aussi, c'est que ce gouvernement, il a des engagements à caractère écologique. Et je ne pense pas qu'il puisse les mettre sous le boisseau.
Mais il va le faire, Yves Tréhard. Quand on entend qu'ils vont revenir sur le prix du gasoil non routier.
Pas complètement. Non, ils sont obligés. Oui, ils vont revenir probablement sur...
C'est un des sujets de crispation. Hein.
Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'ils peuvent arriver à des compromis. Et c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à un dialogue qui soit un dialogue raisonnable, je dirais. Et je pense qu'on est plutôt parti dans ce sens-là, avec « je te donne ça, mais je garde ça ».
D'accord.
C'est un peu du donnant-donnant, quoi. C'est comme ça que ça risque de se passer.
En tout cas, avec une discussion qui est organisée, qui se passe à Matignon, avec des accords, des acteurs qui se connaissent.
Voilà, on a oublié que ça peut être très violent. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai en mémoire, je vais vous dire, le Parlement de Bretagne, qui est parti en fumée au tournant des années 1990, avec des agriculteurs, c'était à Rennes, donc, qui étaient vraiment hors d'eux. Et là, quand vous avez un événement comme ça, ça veut dire que ça prend une tournure qui vire à la jacquerie. Quoi.
Vous diriez qu'il y a une tradition de violence dans les mouvements agriculteurs. C'est vrai qu'on peut penser aussi au saccage du bureau de la ministre Dominique Voynet de l'époque en 99, ou du démontage du McDonald's.
On dit les gilets jaunes ont été violents, mais on oublie toutes les manifestations agricoles qui ont été extrêmement violente. D'abord, ils ont des engins, ils mettent le feu. Ils sont très organisés. Faut pas oublier ça.
Audrey Goutard.
Oui, non, je voulais dire, c'est que c'est lorsqu'il y a des actes de violence, ils sont très scénarisés, ils sont très organisés, ils sont tenus. C'est pas comme les gilets jaunes où on part d'un acte de violence et après ça déborde et la violence et devient hors de contrôle. Ça n'est jamais hors de contrôle lorsqu'il s'agit de manifestations paysannes. Je voulais revenir aussi sur le poids de la FNSEA. On voit bien, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel ordre Gabriel Attal a reçu les syndicats. D'abord la FNSEA et en dernier la Confédération paysanne, alors que la Confédération paysanne défend un modèle agroécologique, justement. Et donc, ça aurait pu être un interlocuteur. Et recevoir dans cet ordre-là, ça dit quelque chose des réponses qu'il va apporter.
Bah, peut-être que ça ne leur a pas plu, parce qu'ils annoncent à l'instant qu'ils appellent leurs adhérents à se mobiliser.
Effectivement, et d'autant plus qu'ils ont même eux-mêmes expliqué qu'ils étaient très choqués du fait d'avoir été reçus en dernier.
Mm-hmm. Mais... je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu.
Ça devait sans doute être très intéressant, Patrick Danhé.
Le poids de la FNSEA, c'est énorme. Hein.
Oui, non, mais en tout cas, sur la violence, c'est vrai que vous disiez qu'il y a deux poids, deux mesures. En tout cas, on voit bien qu'on va laisser faire les blocages.
C'est rare quand même qu'on
entende
parler du gouvernement dire qu'on ne va certainement pas intervenir pour mettre fin à ces blocages. Et puis, l'ancien ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, me disait ce matin aussi, ça fait partie du jeu politique entre la FNSEA et le ministre de l'Agriculture, de dire, pour l'instant, nous, FNSEA, on maîtrise nos troupes, mais attention, si jamais vous ne nous apportez pas les réponses nécessaires, on ne répond plus de rien. Voilà. C'est un coup de pression politique de la part des agriculteurs qui fait partie aussi de la négociation.
Vous avez retrouvé Frédéric Noé ?
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que, in fine, tout va se traduire par une énième infantilisation et victimisation du monde agricole. On va déverser de l'argent, on va leur dire « Ah là là, qu'est-ce que vous êtes malheureux ?»
Ils n'en ont pas besoin ?
D'argent ?
Bah oui.
Si, mais l'argent, il est où ? Enfin, qui, encore une fois, leur achète leurs produits ? Donc c'est la grande distribution, c'est les coopératives agricoles. Après, c'est la libéralisation des marchés. Effectivement, quand on donne toute autorisation pour que des moutons viennent surgelés depuis la Nouvelle-Zélande et qu'ils reviennent deux à trois fois moins cher qu'un mouton élevé dans des bonnes conditions en France, comment voulez-vous que les agriculteurs se battent ? On a décidé on a demandé à l'agriculture de se battre, de conquérir de nouveaux marchés, en concurrence avec des nouveaux marchés, et on a laissé à la grande distribution 4 centrales d'achat, le soin de négocier les prix face à 659 000 agriculteurs. Comment voulez-vous que ça fonctionne ?
Et pourtant, le gouvernement s'est emparé de ce sujet-là, avec les lois. Non, mais je dis les lois Egalim, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, avec l'idée de travailler pour mieux rémunérer les producteurs, les agriculteurs, sur fond d'inflation.
Ce n'est pas les choses qui se fassent. Les conditions d'achat des produits en négociation et même en livraison dans les grands magasins où un agriculteur, s'il arrive 5 minutes en retard, il prend une pénalité, ou s'il livre ses salades dans des caisses qui ne sont pas normées par la grande distribution. Tout ça continue. Et on continue à... Enfin, le représentant aujourd'hui de la lutte contre l'inflation des consommateurs, c'est Michel-Édouard Leclerc. Enfin, Michel-Édouard Leclerc qui a une lourde responsabilité.
Il était cité par l'agriculteur qu'on a vu dans le reportage.
Et oui, mais c'est...
Donc ça veut dire que quels sont les leviers dont dispose le gouvernement? Vous disiez, il y a 20 propositions, en tout cas, il y a des discussions qui sont en cours entre la FNSEA et le gouvernement. On a parlé de la taxe sur le gasoil non routier, c'est un sujet de crispation. Il y a un projet de loi qui est sur la simplification administrative qui est dans les tiroirs de Bercy. Qu'est-ce qu'il y a sur la table?
Alors clairement, il y a cette question effectivement du gasoil non routier. Pour faire court, on a mis fin à un avantage, il y a été mis fin à un avantage dont bénéficiaient les agriculteurs qui fait qu'il doit y avoir une taxe qui doit augmenter, si je ne dis pas de bêtises, de 3 centimes par an jusqu'en 2030. Plusieurs pistes qui sont étudiées. La première, ce serait de dire on arrête tout, c'est-à-dire on stoppe cette hausse. L'ancien député Jean-Baptiste Moreau, qui est agriculteur lui aussi de la majorité, me disait que ça représenterait 40 millions d'euros. Ce n'est pas énorme financièrement, mais c'est vrai que le fait de l'avoir supprimé, c'est en revanche un très gros coût politique. L'autre possibilité sur ce gazole non routier, c'est qu'il y a une partie de la TIPP dont on parle qui est remboursée a posteriori aux agriculteurs. Et il y a un certain nombre de démarches administratives complexes à faire. Certains ne les font pas. L'idée, ce serait de dire, dès le début, en fait, quand vous payez votre gazole non routier, on retire 18 centimes qui correspond à ce que vous pouvez enlever après. Donc ça, c'est essentiel. C'est sûr que ça ne fera pas une mesure très pro-écologie de la part du gouvernement.
Mais il n'y a pas d'alternative, de toute façon.
Il y a une question aussi d'accélérer le déblocage des aides pour toutes les maladies qui ont pu toucher les élevages ces derniers mois et ces dernières semaines, particulièrement sur le plan des épizooties. Et puis sur la question des normes européennes, là, on voit bien qu'il y a même presque un pas commun entre le gouvernement et la FNSEA qui dit on renvoie au salon de l'agriculture ou à plus tard, parce qu'ils savent très bien que tout ça relève davantage de Bruxelles et que ce n'est pas en 3 jours que le gouvernement pourra prendre des mesures sur la simplification administrative qui relève de l'Union européenne.
Il y a une autre mesure qui pourrait aussi être peut-être accordée, c'est l'histoire de la mise en jachère. Vous savez qu'il y a une obligation de mise en jachère des terres, de certaines terres, à hauteur de 4% d'ailleurs. Et évidemment, les agriculteurs disent mais on nous oblige alors qu'il y a une demande et c'est pas logique. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est beaucoup plus difficile, la renégociation de certains accords internationaux vis-à-vis de certaines destinations qui nous importent, comme vous l'avez très justement dit, qui nous exportent des produits qu'on a chez nous, mais à des prix qui sont qui défient toute concurrence. Alors ça, c'est aussi une possibilité. Et puis, je dirais que les agriculteurs peuvent aussi compter sur une psychologie qui fait que toute l'Europe agricole est aujourd'hui...
Ouais, on va le voir tout à l'heure avec les Pays-Bas. Ouais.
Et ça, les agriculteurs français peuvent en jouer.
Ce que je retiens de ce que vous êtes en train d'expliquer, Yves Tréhard, c'est que la réponse, elle n'est pas simple. C'est-à-dire, ce n'est pas une mesure, comme dans les mouvements sociaux très durs, où il faut lâcher le mouvement des retraites, etc. Là, c'est une offre qu'il faut proposer à ces syndicats qui répondent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à des problématiques très différentes.
Très différentes. Et ça, je pense que le gouvernement, il semblerait qu'il l'ait en tête. Mais vous n'avez pas la même réponse aux céréaliers. Aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont pas, je crois, parmi les plus ardents dans la manifestation que les producteurs de fruits et légumes, par exemple.
Gabriel Attal, lors d'une réunion de parlementaires, a dit qu'il fallait s'attaquer à un empilement d'irritants, de choses qui irritent, et tout en précisant qu'il valait mieux payer 50 millions maintenant que 500 millions dans 3 semaines. Donc, d'où le coût politique, évidemment.
Comment est-ce qu'il gère, Gabriel Attal? C'est pas forcément son terrain de prédilection. Hein. Première crise sur les questions agricoles, pour ce jeune Premier ministre de 34 ans, élu en banlieue parisienne, enfin en proximité de Paris, c'est pas franchement son sujet.
Non, ce que je disais tout à l'heure, l'ancien ministre, effectivement, Dominique Bussereau, me disait, c'est sûr, c'est plutôt un rat des villes, Gabriel Attal, qui se confronte à sa première crise. Ceux qui travaillent avec lui ces derniers jours, que ce soit au ministère de l'Agriculture ou ailleurs, trouvent plutôt que ça marche plutôt pas mal parce qu'il est politique. Ça n'a rien à voir avec sa prédécesseur, me disaient plusieurs conseillers ministériels, parce qu'en fait, il s'adapte. Et c'est pour l'instant sa force. Une capacité à dire « je ne connais pas cet aspect technique, je vous le laisse à vous, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture ». Faites-moi des propositions, sur quoi il faut trancher. On l'a vu aux questions au gouvernement, il en a pris quelques-unes évidemment hier, mais il en a laissé, je crois, 9 à son ministre de l'Agriculture. Ouais. Donc il y a une capacité à répartir les choses et, me dit-on, une grande fluidité. Après, il sera jugé, les mots, on disait à l'Assemblée nationale, c'est bien gentil, il sera jugé sur les actes. Et là-dessus, les agriculteurs l'attendent. Après, c'était plutôt bien organisé que le week-end dernier, ils fassent une opération grand débat dans le Rhône, oui, au pied des Monts du Lyonnais, où très vite, il y a eu une volonté de mettre en avant des agriculteurs pour montrer qu'il n'était pas, qu'il n'était pas en retard sur cette question-là. Mais il sait qu'effectivement, avec son discours de politique générale, dans lequel il y aura probablement aussi une partie des réponses, oui, à ce malaise agricole mardi, il se retrouve face à son premier gros dossier de Premier ministre et qui est probablement sur le sujet le plus compliqué et probablement le sujet qu'il maîtrise le moins au départ.
Et il va aller sur le terrain.
Oui, alors, hein, le calendrier, pour l'instant, ça reste probablement des annonces samedi, vendredi ou samedi, par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture.
On l'a dit rapidement tout à l'heure, Yves Tréhard, il y a 82% des Français, oui, qui sont du côté des agriculteurs. Ça nécessite une bonne calibration de la réponse politique.
Ah bah oui, il faut qu'elle soit bien calibrée. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il laisse le week-end comme une porte ouverte au fait que ça dégénère. Parce que si ça dégénère ce week-end, alors là, ça devient très très grave. Et pour lui, surtout, enfin pour la France, pour les agriculteurs, mais pour son avenir politique, c'est très grave, parce qu'il n'a même pas fait son discours de politique générale. Donc là, il va falloir qu'il ajoute très fin. C'est pour ça qu'il veut faire des annonces, alors vendredi ou samedi, je crois.
En tout cas, c'est sans doute l'une des hantises, hein, du gouvernement dans ce dossier, voir la colère des pêcheurs se joindre à celle des agriculteurs. C'est déjà le cas à Noirmoutier, où les bateaux sont priés de rester à quai pendant un mois pour préserver les dauphins. Magali Lacrose, Mathieu Lignot et Emmanuel Bach.
Sur l'île de Noirmoutier ce matin, les bateaux de pêche n'ont pas quitté le port. À cette heure-là, c'est très inhabituel.
C'est le temps idéal pour pêcher, mais là on est scotché à quai. Hein, tous les bateaux sont stoppés.
Décision du Conseil d'État. Les bateaux de plus de 8 mètres sont interdits de pêche dans le golfe de Gascogne pendant un mois pour protéger les dauphins en pleine saison de reproduction. Une victoire pour les associations de défense de l'environnement et l'incompréhension des pêcheurs.
On est un peu dans le dégoût. Hein. Moi, j'arrive en fin de carrière, il ne me reste plus qu'un an à faire. On a vu quand même pas mal de flottes disparaître avec des décisions un peu extrémistes. Et on sent que le couperet est au-dessus de notre tête. Hein.
Comme la plupart de ses collègues ici, Philippe avait investi entre 4 000 et 8 000 euros par bateau grâce aux subventions professionnelles pour installer des répulsifs censés éloigner les dauphins grâce à des ultrasons.
En fait, on a deux sondes de chaque côté de la coque qu'on met en place un jour sur deux. On actionne simplement avec ce bouton. On l'actionne simplement et il y a une petite émission de différents sons de mammifères qui se mettent en place, en fait. Et nous, on le met qu'au moment du lancement des filets.
À peine mise en place, l'expérimentation est déjà dépassée. Désormais, l'interdiction de pêche concerne plus de 400 bateaux. Elle sera renouvelée en début d'année 2025, en 2026. C'est toute une profession qui se sent montrée du doigt.
Bah, on n'est pas avec des harpons à l'avant du bateau quand même. Faut pas non plus, on n'est pas en 1930 où il y avait des décrets qui obligeaient, qui donnaient des récompenses pour pêcher les dauphins. Nous, c'est pas du tout ça. On est dans une autre démarche quand même, quoi. France Nature Environnement, et pourquoi ils s'occupent pas du hérisson qui est en extinction imminente de disparition. À ce moment-là, on saisit le Conseil d'État, on dit voilà, l'espèce est en danger et on stoppe l'économie nationale en disant on arrête les voitures la nuit parce que le hérisson se balade la nuit, quoi. Ça peut être dangereux quand même.
Le blues du pêcheur qui essaye de garder le sourire même loin du large, rejoint ce matin-là par des représentants d'organisations de pêcheurs.
Par contre, il faut savoir qu'ils ont reçu des ordres de la DGEMPA de durcir le contrôle.
Contrôle de ?
De tout.
Ah oui, c'est bien l'ambiance.
La colère est intérieure, mais en fait, ça fait 2-3 ans qu'on nous tape sur la tête avec des baisses de quotas, avec des réglementations, avec le coût du gazole, avec les marchés. On importe du poisson alors que nous, on nous interdit de travailler finalement. Je trouve que les marins sont résignés, mais après, ça peut, effectivement, avec le mouvement des agriculteurs, franchement, il y a une connivence dans ces démarches.
À la criée de Noirmoutier, avant 6 heures du matin, il y a très peu de monde, beaucoup moins de bruit que d'ordinaire et beaucoup moins de poissons.
Moyen 11-2.
Même les négociations, souvent vivantes, manquent d'entrain ce matin. Les marailleurs qui achètent les poissons pour les revendre aux commerçants, aux restaurants, vont eux aussi subir les conséquences de l'interdiction.
Bah, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Hein. Lundi, dans la Somme, ils sont rentrés les bateaux. Il y avait 5 tonnes de sol ici, il y avait 6-7 tonnes sur les sables. On est au courant de pas grand-chose. Et puis, bah, le personnel, j'ai pas trop envie de le mettre au chômage technique parce qu'ils sont pour rien. Donc voilà. Et puis là, vous voyez, là, il y a des Espagnols qui pêchent en face et on leur dit rien sur le golfe de Gascogne.
Des poissons espagnols qui pourront se retrouver sur les étals français. Et pour les pêcheurs de Noirmoutier, le sentiment d'être perdant de tous les côtés.
Et ce reportage a suscité beaucoup de questions hein, en plateau. On va y revenir. Il y a cette question de Sandrine dans le Haut-Rhin. J'ai l'impression que cette noble cause est déjà noyautée par l'extrême droite. Que fait la gauche en attendant un mot avec vous, Guillaume Daret, sur l'extrême droite. Il a fait le déplacement aussi, hein, Jordan Bardella.
Jordan Bardella était hier à Lorient parce qu'il y a une volonté, on le disait, pour les agriculteurs et aussi sur cette question-là, de réussir, ce sont ces mots, ce qu'il appelle la coagulation de la France du travail. C'est-à-dire les agriculteurs mécontents, les pêcheurs qui se sentent maltraités, les ouvriers, les cadres qui ont le sentiment qu'ils travaillent mais qu'ils ne gagnent pas assez. Il veut réussir à réunir cette France-là. Le Rassemblement national qui a plutôt des bons scores électoraux chez les marins pêcheurs, un peu moins chez les agriculteurs, on disait parce que ce n'est pas leur clientèle traditionnelle. Il y avait un sondage qui avait été fait par l'IFOP avant la présidentielle de 2022, un mois avant, qui disait que Marine Le Pen recueillait 11% d'intention de vote au premier tour. C'est très loin derrière Emmanuel Macron et même à l'époque Valérie Pécresse. Mais il y a une vraie volonté de Jordan Bardella d'aller voir les pêcheurs, d'aller voir les agriculteurs pour essayer de les convaincre, dit-il, que son programme ne doit plus leur faire peur. Parce que sur la dimension européenne, les agriculteurs, les pêcheurs critiquent beaucoup l'Europe, ah oui. Mais ils savent aussi ce qu'ils doivent à l'Europe en termes d'aide, ouais, avec la PAC, en termes d'aide financière. Et donc la crainte du Rassemblement national, et plus particulièrement de Jordan Bardella, c'est justement que ces gens-là ne votent pas pour le Rassemblement national parce qu'ils ont toujours peur que le Rassemblement national fasse, par exemple, sortir la France de l'Union européenne. Donc, il va aller les voir, il est allé voir les pêcheurs à Lorient, il se fait à peu près toutes les foires agricoles qui existent en France, il sera 48 heures au Salon de l'agriculture le premier week-end, là où il y aura peut-être Emmanuel Macron aussi, pour l'inaugurer, pour aller dire aux agriculteurs, n'ayez pas peur. Donc, vraiment, ouais, il cherche à investir cela, et il cherche à l'investir parce qu'au-delà même des intérêts économiques et financiers, sa conviction, et il n'a peut-être pas tort là-dessus, c'est que ça renvoie à un imaginaire aussi de la France qui va au-delà, finalement, des conséquences économiques. C'est-à-dire que l'agriculture, la pêche, ça fait partie de l'identité française, du patrimoine français. Et donc, c'est là-dessus que le Rassemblement national mise beaucoup.
Frédéric Danhaye, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Je rajoute juste pour votre réflexion la réaction des écologistes. On entendait Marine Tondelier qui dit « Je soutiens à 200% ce mouvement de colère des agriculteurs. Depuis très longtemps, nous, les écologistes, nous sommes alliés dans ces luttes pour combattre les traités de libre-échange, pour sauver les terres agricoles. Quand on protège le sol, l'eau, alors on protège l'agriculture. Ouais. » Tout le monde essaie de s'emparer, je ne sais pas si c'est le mot.
C'est une opportunité, mais vous l'avez dit, c'est très psychanalytique, hein, la pêche. Et on projette dessus le fantasme de racines familiales qu'on veut bien aller trouver près de la mer. Ou dans
qui existe.
Oui, mais c'est de moins en moins le cas. On projette le fantasme d'une France rurale, celle de la polyculture élevage, la carte de France des années 50, et puis le bon pêcheur avec un gros chandail qui est dur à la tâche et qui gagne bien sa vie. Ce qui est complètement faux. Les pêcheurs gagnent très bien leur vie aujourd'hui, en raison du fait qu'ils ont fait attention, en raison du fait qu'on a fait des sorties de flotte, c'est-à-dire qu'on a sorti des bateaux de l'eau, en raison du fait que beaucoup de vieux pêcheurs n'ont pas été totalement remplacés par les jeunes pêcheurs. La pêche va mieux.
Oui. Et on arrive. Là, ils ne sont pas contents quand on leur demande de rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins.
Oui, alors moi, je peux les comprendre, d'autant plus qu'il existe des mécanismes d'effarouchement, mais c'est un peu comme pour les agriculteurs. Ils savaient très bien que ça allait leur arriver.
Pourquoi ils savaient ça?
Bah parce que c'était prévisible. Parce que la France, si FNE est allée au Conseil d'État, c'est parce que derrière, il y avait une directive européenne, enfin je ne sais plus quel texte européen, qui imposait de toute façon de protéger, protéger les dauphins. Mais derrière tout ça, c'est juste une allumette. Derrière tout ça, il y a, malgré le fait que les efforts ont fait que les quotas de pêche aujourd'hui alloués sont plus importants, ce qui fait que derrière, le poisson se vend plus cher, ce qui fait que derrière, un pêcheur aujourd'hui à l'embauche, il est entre 1 600 et 3 800 euros. Un patron pêcheur, il touche assez vite les 6 000 à 8 000 euros net. Hein.
Ah oui ?
Bien sûr, en comptant le salaire de base et la part de pêche, hein, la part sur ce qui était vendu. Malgré tout, la Commission européenne veut fermer 87 sites de plongée et elle veut imposer de ne plus pêcher du tout dans ce qu'on appelle les sites Natura 2000, les sites protégés, alors même que, pardonnez-moi, le parc naturel marin de la mer d'Iroise, qui est au large de Brest, a réussi à protéger tout en autorisant la pêche.
Mais quand ils disent, et c'est intéressant dans le reportage, ils disent, oui, mais nous, on doit rester à quai alors que les Espagnols, ils peuvent pêcher. C'est ça, en fait.
C'est un sentiment d'injustice. En fait, on voit bien qu'ils sont face à un sentiment d'injustice plus que de problèmes de rendement et de bénéfices. D'ailleurs, pour ce mois où les pêcheurs vont arrêter de travailler, ils seront indemnisés à 80%. Donc, c'est pas on voit bien dans ce reportage qui a été très bien fait, c'est pas un problème d'argent. Un petit peu, mais pas vraiment. Ouais. C'est avant tout cette espèce de sentiment de ne travailler pour rien, qu'on ne compte pas, qu'on compte pour rien. Et qu'en plus, les voisins d'à côté, eh bien, eux, on les embête pas, en fait. Mmh. Et donc, effectivement, tout cet ensemble-là crée cette colère que l'on retrouve à la fois chez les agriculteurs et aussi de frustration que l'on retrouve chez les pêcheurs et sur lequel s'appuie le RN. Parce que le discours du RN, lorsqu'on écoutait effectivement ces visites de Jordan Bardella sur les foires, comme vous l'expliquez très bien, les différentes foires, etc., c'était jouer sur la frustration de ces professions qui ont l'impression de devoir se changer ou disparaître.
Vous parliez du revenu des pêcheurs, juste... en tout cas pour les agriculteurs, c'est pas exactement la même histoire.
Non, pas du tout.
Puisque selon les chiffres de l'INSEE, les revenus des agriculteurs ont baissé de 40% en 30 ans.
Ouais, alors ça dépend ce que l'on compte. Je mets au défi quiconque de comprendre quelque chose aux statistiques sur les revenus agricoles, mais en général, on est autour de 20 000, mais c'est 20 000 euros net, c'est à 34% en moyenne uniquement issu du monde agricole. C'est-à-dire le reste, c'est le salaire de la femme, souvent, ou de l'homme un peu.
20 000 euros net.
C'est 20, 22 000. En gros, c'est 50 000 que dégage l'exploitation. Là-dessus, le salaire versé, ce qui est le salaire net, c'est 20 000, mais dont...
Par an.
Non, oui, par an, pardon, oui, pas par mois. dont 60 à 70% qui proviennent du salaire de la femme. Je voudrais juste rebondir sur la politique.
Oui.
Si le RN est là, c'est parce que les autres partis politiques ne sont plus là. C'est qu'il y a... la gauche s'est pas plus intéressée au monde paysan qu'elle ne s'était intéressée au monde ouvrier qu'elle a laissé tomber. Donc le RN, là-dessus, il fait à peu près ce qu'il veut. Et quant à Marine Tondelier, elle se fout un peu du monde. Lors des universités d'été au Havre, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 19 663 sympathisants à qui on a demandé « qu'est-ce que vous voulez comme que l'on fasse, nous, Parti Vert, demain ?» La ruralité est arrivée en dernier 9%. L'alimentation, 36%. C'est-à-dire que le monde paysan n'existe que pour ce qu'il produit, que pour ce qu'il pollue. Mais le monde paysan en soi, la ruralité n'existe pas.
Ce qui a d'ailleurs dans les attentes de
ce qui d'ailleurs lui a été envoyé en pleine figure par François Ruffin.
Yves Tréa.
Oui, moi je crois que ce qui est important aussi, c'est effectivement la considération, et ça il le répète très souvent, la considération qu'on leur porte.
Mais les Français les adorent.
Oui, mais pas dans leurs achats, non. Ni dans leur comportement. Vous prenez par exemple les poissons, la vente de poissons en France. Savez-vous que sur les étals de marché et du commerce, on n'achète que 25% de poissons d'origine française, pêchés par des pêcheurs français. C'est-à-dire que les deux tiers de ce qu'on achète, c'est des produits qui sont importés. Pareil pour l'agriculture. Alors, la proportion n'est probablement pas la même. Mais il y a ça qui est quand même très important aussi. Et ce qui a complètement, et c'est pour ça qu'il faut insister là-dessus, on parlait des années 50 tout à l'heure, c'est que les modes de consommation en France ont complètement changé. Et ce changement, il est dû quoi ? À l'arrivée de cette grande distribution qui a tout cassé.
Ben oui.
Tout cassé.
Oui, on vous laisse trouver des prix. On sort d'une séquence où on a expliqué qu'il fallait aider les Français à consommer parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir tous les jours parce que les prix étaient trop élevés.
On se prend les pieds dans nos contradictions et nos paradoxes. C'est le paradoxe français. C'est-à-dire que, effectivement, le petit commerce, mais vous voyez bien, les petits commerces, ils meurent les uns après les autres. C'est de la grande.
C'est compliqué, il serait rare de dire aux Français de payer plus cher au moment où ils n'arrivent pas à s'en sortir.
Mais il ne s'agit pas de payer plus cher. C'est que c'est la massification qui a tout changé.
C'est que la valeur ajoutée soit pas capté toujours par les mêmes.
Et c'est ça qui est très rude à considérer et à accepter par les agriculteurs.
Et pour
par les agriculteurs, pardon.
par les agriculteurs, elle va pas y arriver.
Par les agriculteurs qui souffrent. parce qu'ils ne souffrent pas tous. Ouais. Et encore une fois, quand on parle des céréaliers, c'est quand on parle des grands cultivateurs de la Beauce ou de quelques régions comme ça, ils ne sont pas du tout dans le même
maraîcher aujourd'hui.
Et dans les mêmes.
Attention, Audrey Boutard va prendre la parole. Voilà. Allez-y.
Quel enjeu. Le mouvement est parti d'Occitanie. Et en Occitanie, c'est intéressant parce que l'Occitanie a été leader au niveau des agriculteurs, justement, dans l'écologie et la remise en question. Les jeunes agriculteurs ont beaucoup bougé sur les modes de production et ils sont tout à fait leaders en matière d'environnement. Et justement, en voyant effectivement l'inflation monter et que les propres habitants d'Occitanie n'allaient pas acheter chez eux, peu de producteurs, mais préféraient aller acheter des poulets, aux hormones venus d'autres pays, etc. Ça a joué énormément. Et sur les ronds-points, on voit ce discours-là. Ce discours, on a fait des efforts, on s'est mis aux normes, on est hyper leader, et en même temps, même nos voisins vont acheter des poulets chez France.
Un poulet sur quatre consommé en France est produit en France. Un sur quatre. C'est énorme. Vous vous rendez compte que 3 poulets sur 4 sont importés.
Et parfois, ça va être de pire en pire avec l'arrivée de l'Ukraine.
Voilà, c'était ce que j'allais dire. Parfois, d'Ukraine. On en parlait tout à l'heure avec...
On a ouvert les frontières pour aider les Ukrainiens.
Voilà. Et donc, les céréaliers aussi sont en colère vis-à-vis de cela.
Ben oui.
Après, ce qui est intéressant aussi, je trouve, sur le fait que le monde politique a peut-être plus de mal à appréhender cette problématique agricole et ce qui remonte par rapport à ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que je suis allé regarder combien il y a d'agriculteurs, par exemple, à l'Assemblée nationale. Oui. Il y en a 12 qui sont déclarés en tant que tels quand on prend le
sur 577.
Sur 577. Ça n'a rien à voir avec il y a quelques législatures où ils étaient plusieurs dizaines. Donc évidemment, ce qu'on dit habituellement et de façon un peu traditionnelle, quand on fait des analyses soir électoral, en parlant de la moindre représentativité des ouvriers ou autres, ça se retrouve aussi chez les agriculteurs. Donc s'il y a moins d'élus, députés, sénateurs qui sont issus du monde agricole, les mécontentements aussi, ça remonte moins facilement.
Ça remonte moins facilement, y compris au chef de l'État. Est-ce qu'il a des vigies comme il a pu avoir au début de son quinquennat avec, on pense à Gérard Collomb qui jouait ce rôle-là. Est-ce qu'il a des vigies qui lui font remonter cette colère? Parce que c'est vrai que quand on se souvient de sa conférence de presse, lorsqu'il a parlé de la simplification des normes, lorsqu'il a parlé du bon sens, on se dit qu'il avait quand même déjà quelques indicateurs qui étaient passés des voyants, qui étaient passés au rouge.
Alors on parlait tout à l'heure, je disais, il y a Jean-Baptiste Moreau qui a été un député Renaissance, qui n'est plus élu à l'Assemblée nationale, qui est un agriculteur, exploitant agricole, qui continue et qui est en lien direct avec le président, avec le Premier ministre Gabriel Attal, qui fait remonter des choses. On sait que le chef de l'État aime bien aussi, quand il se rend sur place, avoir gardé les contacts dans les exploitations dans lesquelles il est allé pour faire remonter toutes ces motivations-là. Et puis, il y en a, par exemple, il y a une personne comme Sébastien Lecornu, qui a beau être ministre des Armées, qui est quelqu'un qui était implanté à Vernon dans l'Eure, dans un secteur plutôt rural, qui s'est toujours intéressé à cette question-là, qui fait aussi partie des gens qui lui remontent tout cela. Mais c'est différent.
Il a cette fibre-là.
C'est pas évident, c'est certain que... Ouais. Mais est-ce que, par exemple, Nicolas Sarkozy l'avait davantage? C'était aussi élu qui était un élu urbain. Alors on a dit François Hollande, oui, parce qu'il venait de Corrèze, mais il est allé s'implanter a posteriori. Finalement, on va en revenir au traditionnel Jacques Chirac qui certes était allé s'implanter en Corrèze, mais était issu, et on verra ça effectivement dans quelques semaines quand il y aura le Salon de l'agriculture, où on va se refaire ces sujets. Et ce sera cette question-là.
Il y en a un qui connaît ça, j'allais dire parfaitement, assez bien, c'est Bruno Le Maire, qui est passé par le ministère de l'Agriculture et qui, on parlait de la façon dont ce gouvernement tente de désamorcer les colères et avance à pas compter. Le gouvernement demande aux banques et aux préfets d'être souples envers les pêcheurs qui auraient des difficultés financières du fait de cette décision qui a été prise.
Moi, c'est ce que j'allais ajouter tout à l'heure pour la considération qu'on ne leur accorde pas tout à fait, c'est qu'ils vont voir leurs banquiers, les banquiers, ne les écoutent pas, parce que les banquiers refusent de leur donner, de leur accorder des prêts. Ça, c'est très, très compliqué pour notamment pour ceux qui veulent se reconvertir, changer leur mode de production. Ils ont beaucoup de mal à trouver une oreille attentive de la part des banquiers.
Et vous...
Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors, pour le président de la République, on revient toujours à Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, il avait pas la pression écologique qu'il y a aujourd'hui. Vous prenez un sujet qui est quand même un sujet de base, qui est celui de l'eau. Mmh. Mais les agriculteurs, ils veulent avoir de l'eau.
Stocker de l'eau.
Et stocker de l'eau, c'est un des sujets numéro un d'opposition des écologistes. Donc vous voyez que là, c'est quand même très compliqué. Et vous voyez que ça met le feu aux campagnes à chaque fois.
Jacques Chirac, il avait quand même dit « la maison brûle et nous regardons
oui,
ailleurs ».
Oui, mais il parlait à la tribune des Nations Unies, c'était pas tout à fait pareil.
Frédéric Drouet.
Non, là où le président de la République devrait un peu s'inquiéter, et là où il pourrait avoir des relais, c'est avec les maires de France. Pourquoi ? Parce que une des revendications des agriculteurs, c'est les normes. C'est pas tant qu'il y ait des normes, c'est qu'ils n'ont pas le temps de lire les textes, c'est qu'ils n'ont pas le temps de les comprendre parce que les normes sont devenues incompréhensibles. Et les maires des petites villes, ils sont confrontés exactement à la même chose sur le ZFE, sur les plans de prévention des risques d'inondation, sur la mise en place de la rénovation énergétique. Les maires des petites communes n'ont pas les moyens d'avoir un ingénieur territorial, d'avoir un ingénieur juridique, parce que ça s'appelle comme ça, capable de décrypter les textes, de mettre les textes les uns avec les autres pour comprendre quoi faire. C'est un peu la même chose. Et s'il y a une réponse que le gouvernement devrait faire, c'est on vous accorde du temps ou au sein d'une coopérative, on va vous payer des gens pour remplir simplement les papiers. Ça prend 2 heures, 3 heures par jour dans le monde agricole.
Oui.
Les maires que l'on voit beaucoup, les maires ruraux que l'on voit beaucoup justement sur les points de...
Aux côtés des agriculteurs.
Quand on disait, effectivement, vous disiez très justement que finalement au Parlement, on ne voyait pas de représentants des agriculteurs. En revanche, les maires sont là.
Ces maires ruraux qu'Emmanuel Macron, au moment des Gilets jaunes, en 2018, s'était appuyé davantage que sur l'association des maires de
France. Je voulais juste rappeler, on a des images, qu'il y a une mobilisation en ce moment dans le territoire, sur tout le territoire français. Je le rappelle, 85 départements avec la perspective peut-être de monter sur Paris, comme ils disent. Mais il y a des mobilisations aussi à Bruxelles. En ce moment, Marion Maréchal Le Pen était aux côtés des manifestants. Il y a aussi ce mouvement qui a essaimé partout en Europe. On en a parlé sur le plateau de C'est dans l'air. En Allemagne, je crois en Bulgarie,
en Pologne,
en Roumanie.
Aux Pays-Bas,
j'y viens justement, parce que les Pays-Bas, il y a une grogne des agriculteurs qui s'est installée il y a plusieurs mois. La réduction imposée des cheptels au nom de l'écologie ne passe pas. Et je le disais, ça fait des mois que la colère gronde dans des exploitations à tel point qu'un mouvement politique s'est organisé. Les agriculteurs sont passés de la contestation à l'organisation politique avec la création d'un parti, ça s'appelle le BBB, Mouvement Agriculteur Citoyen, qui enchaîne les succès. Reportage Léa Demirjian, Laura Rado et Ariane Morisson.
Brooklyn, 6 heures ce matin.
Je fais la traite des vaches 2 fois par jour. Mon mari gère le reste dans la ferme.
Pour Yantine, fille d'éleveur, la ferme, c'est une histoire de famille. Aujourd'hui, son combat, c'est d'empêcher le gouvernement de réduire la taille des cheptels. Une mesure écologique qui, dit-elle, ruinerait son exploitation.
Pour le moment, on a du travail pour 2 personnes à temps complet. De quoi gagner des revenus corrects. Mais si on perd la moitié de nos vaches, alors on va perdre la moitié de nos revenus. Et on n'aura du travail que pour une seule personne. Avec mon mari, nous avons 2 fils d'une 20aine d'années. Ils veulent tous les 2 devenir agriculteurs. Sauf que concrètement, on ne pourra laisser qu'un seul des 2 reprendre notre exploitation.
Impensable, inenvisageable. Alors dès 2019 et pendant des semaines, Yantine et son mari rejoignent la révolte des tracteurs qui secoue les Pays-Bas. Après des mois de mobilisation, elle décide de passer à un autre mode d'action. Et cette fois, plus besoin de bottes en caoutchouc.
Je suis très pressée maintenant, tout est chronométré. Je dois partir vers 7h45, 7h50. Je passe mon temps à courir pour être à l'heure.
Depuis mars dernier, Yantine est élue au conseil régional sous la bannière du BBB, le mouvement des agriculteurs citoyens.
Mon mari a manifesté dans la région des 10aines de fois avec les autres fermiers. Et un jour, il est rentré et il m'a dit « C'est pas en manifestant qu'on va y arriver, on doit entrer en politique. C'est comme ça qu'on pourra changer les règles. »
Avec elle, on a retrouvé de la confiance dans la politique. Avec ma propre mère, je sais que ça va bien se passer, alors que les autres élus, on ne peut pas toujours se fier à eux pour mettre en œuvre ce qui compte pour nous.
Direction le conseil régional. Le BBB, une nouvelle offre politique qui, selon elle, a séduit les électeurs pour une raison.
Pour le BBB, ce qui compte, c'est de remettre l'église au milieu du village, qu'il y ait de nouveau de la vie. On ne peut pas se résoudre à voir tous les magasins et les infrastructures fermées.
Parler non seulement des agriculteurs, mais plus largement de la ruralité. Après seulement 3 ans d'existence, en mars dernier, le BBB est arrivé en tête dans chacune des 12 provinces du pays. Libéral en matière d'économie, discours anti-élite, le BBB se dit ni de droite ni de gauche, mais envisage de rentrer dans le gouvernement d'extrême droite de Geert Wilders.
Nous avons eu des élections législatives et Geert Wilders a obtenu 37 sièges. C'est une percée considérable. Il n'y a rien de plus démocratique. Les électeurs se sont prononcés. Donc, Geert Wilders est la personne indiquée pour former un gouvernement.
Mais gare à la désillusion. Les nouveaux élus se heurtent à la réalité du pouvoir.
C'est vraiment très très difficile. Parce que nous avons 15 sièges et qu'il n'y a que nous qui comprenons vraiment les intérêts des agriculteurs. Et donc on doit sans arrêt se battre avec les 35 autres élus. C'est la majorité qui l'emporte. La plupart du temps, on n'obtient pas ce qu'on veut.
Prochain grand test électoral, les élections européennes. Le BBB espère cette fois peser sur la politique de Bruxelles.
Cette question de David en Haute-Savoie. Pourrait-il y avoir un accord entre les agriculteurs européens pour rouler vers Bruxelles ?
Ah oui, c'est possible.
Oui,
ouais, c'est tout à fait possible. Il y a quand même une grande solidarité entre eux. Et sauf que, encore une fois, les revendications ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, on parlait des céréales. Les céréales, c'est la grande... Les céréaliers, ils sont en première ligne en Pologne, en Roumanie, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a ouvert les portes de l'Ukraine. Enfin, on a ouvert les portes aux Ukrainiens, et eux, et c'est eux qui, en premier, se révoltent aujourd'hui contre justement cette ouverture. Mais évidemment, ça s'est déjà produit d'ailleurs, hein, qu'une marche commune soit tentée vers Bruxelles.
Ça veut dire que ça va être un enjeu pour les prochaines européennes, Yves Tréhard ?
Ça sera au cœur. Alors, oui. Évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, on se dit que ça va être au cœur des...
Bah oui, c'est ça.
C'est quand même un peu au cœur, parce que la PAC, on parlait de la politique agricole commune tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la politique agricole commune, il y a 30 ans, c'était 75% du budget de l'Union européenne. Et sur ces 75%, la moitié allait à la France. Je vous dis.
Oui, bien sûr.
Donc, la politique agricole commune, c'est effectivement, ça va être un enjeu important.
Ça va être un enjeu à commencer par le choix de la tête de liste pour la majorité.
Et oui.
On ne l'a toujours pas.
On ne l'a toujours pas. Parmi les noms évoqués, il y avait l'eurodéputé sortant Pascal Canfin, qui vient des écologistes, qui est président de la commission environnement. Autant vous dire que c'est un chiffon rouge aujourd'hui pour les agriculteurs. Donc, évidemment, a priori, ce ne sera pas lui. Parmi les noms qui sont cités, il y a quelqu'un qui a davantage peut-être le profil, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qu'on a évoqué il y a quelques jours, il y a quelques semaines.
Qui était très apprécié comme ministre de l'Agriculture.
Absolument, qui est très apprécié par les agriculteurs, y compris d'ailleurs par les députés de droite. À l'époque, on disait Christian Jacob, qui était le président du groupe Les Républicains, agriculteur lui-même, ancien responsable des jeunes agriculteurs, disait qu'il avait fait un très bon travail. On avait évoqué son nom il y a quelques jours pour le poste de Premier ministre. Il a un profil qui pourrait davantage rassurer les agriculteurs. Donc non seulement ça va être évidemment l'agriculture une question de campagne, mais à court terme, c'est une problématique qui va s'imposer déjà dans le choix évidemment symbolique et important de la tête de liste de la majorité.
Qui porte les préoccupations des agriculteurs politiquement ?
Alors aujourd'hui, il y a l'Alliance rurale qui aimerait les porter. Vous savez, c'est une liste qui s'est montée pour les européennes, qui est faite par le patron des chasseurs, Willy Schren, qui était soutenu par Thierry Coste, qui est ce qu'on appelle un lobbyiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle à l'oreille des politiques et notamment du président de la République. Il avait réussi à obtenir la réduction du tarif du permis de chasse.
Et la tête de Nicolas Hulot.
Absolument. Tout ça est un peu en train de se casser la figure puisque Thierry Coste a dit hier ou avant-hier que lui partait, si j'ose dire, de cette coalition-là parce que ça prenait un peu l'eau. On avait annoncé des personnalités telles Bernard Hinault ou d'autres dans cette liste. Pour l'instant, ça ne se profile pas parce que là encore, il y a un monde rural, mais avec des revendications absolument protéiformes. Donc aujourd'hui, la majorité, on le disait, essaye de porter cette revendication du monde agricole parce qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête chez les agriculteurs au premier tour. Et les Républicains, de par leur implantation locale encore forte dans les mairies, ils ont plus que 60 députés, mais ils ont un nombre de sénateurs important, essayent encore de les porter, avec bien sûr en tête de pont, si j'ose dire, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est particulièrement implanté dans ce monde-là.
Audrey Gautard, vous y ajoutez quelque chose ?
Je voulais dire que la subtilité aussi, c'est que les agriculteurs ne sont pas contre l'Europe, mais demandent de plus d'aide à l'Europe. Donc c'est là où effectivement l'extrême droite ne peut pas s'y retrouver. C'est intéressant de voir aussi qu'ils se retournent finalement vers la majorité pour avoir une réponse.
Et nous revenons maintenant à vos questions.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.